Philosophie du vivant par le père Philippe Asenjouteur, le 9 janvier 90.
Nous avions commencé la dernière fois ce domaine de la philosophie du vivant, de l'affectivité sensible, ce qu'on a appelé les passions. Alors, je vous montrerai comment, historiquement, les passions avaient pris une importance très grande dans l'étude philosophique. Parce que, chez Platon, les passions sont étudiées surtout de façon négative, d'une façon très belle, avec le symbolisme des chevaux. C'est très curieux, il faudrait se demander pourquoi. Parce qu'il y a le cheval de l'Apocalypse et les chevaux dans Platon. Celui qui veut faire une étude symbolique du cheval, c'est quand même intéressant. Et le char, enfin, il y avait le cocher qui tient et qui retient. Celui qui pique toujours la tête vers par terre, c'est le concupiscible, puis l'autre, l'irascible, qui veut au contraire partir à toute vitesse. On voit très bien ça. L'irascible et le concupiscible représentés par des chevaux. C'est peut-être la première fois, du reste, je ne sais pas, ça faudrait voir le lien entre le cheval et le concupiscible et l'irascible. Vous trouvez ça dans l'Apocalypse? Alors, les chevaux sont teintés. Le cheval verdâtre. Le cheval noir. C'est quand même le combustible des racines. Mais c'est quand même curieux de voir ces choses-là. Alors, pourquoi y a-t-il ces choses-là? Ce symbolisme du cheval lié au concupiscible. Et le cheval blanc, c'est la victoire du concupiscible des racines dans l'amour spirituel. Un langage là, symbolique, évidemment, c'est pas scientifique. C'est avec les épicuriens et les stoïciens que la passion est devenue comme quelque chose d'essentiel à étudier, à analyser. Dans la philosophie d'Aristote, les passions sont traitées en rhétorique. Aristote a étudié les passions, mais en rhétorique. Le rhéteur doit connaître les passions des hommes pour que son discours soit efficace. Puisqu'il ne cherche pas la vérité comme rhéteur, il recherche à persuader. Or, la persuasion implique les passions. Ça, c'est sûr, c'est le domaine du tragique, hein, les passions. Tout le drame, il est passionnel. Voyez les romans. Et c'est vrai que le domaine des passions, c'est dans les romans que vous le trouvez le plus. Et c'est important sous ce point de vue-là de voir que c'est du domaine artistique que les passions ont été développées en premier lieu. Donc en rhétorique, les passions. Dans le De Anima, rien sur les passions. Nous introduisons dans notre étude de philosophie du vivant les passions. C'est vrai que du côté de la théologie chrétienne, le premier théologien qui a introduit une étude sur les passions, c'est Thomas d'Aquin. On l'expression implique le sensible, implique le corps. On est passionné dans son corps. Vous n'êtes pas passionné dans votre mousse. Vous êtes passionné dans votre corps. Quand on est passionné, on fait des gestes. Ça, c'est sûr. Quelquefois, on n'en fait pas pour être encore plus passionné. Les discours les plus passionnés, c'est l'immobilité du corps et des gestes. Et il n'y a plus que la voix. Dans ce cas-là, de plus fort. Mais ça passe toujours par le sensible, les patients. C'est le domaine sensible, le domaine affectif sensible. Eh bien, saint Thomas a étudié le domaine des passions en théologien pour répondre à toute cette théologie influencée par le stoïcisme et montrer que dans le Christ, il y avait des passions. Mais des passions entièrement dominées, transformées, sublimées par le point de vue de l'esprit et par la grâce. Et c'est pour ça qu'il appelle ça des pro-passions. Mais c'est très intéressant de voir que saint Thomas, c'est le théologien des passions. Et c'est une manière d'entrer dans la théologie de saint Thomas. Pour nous, son traité des passions. C'est une chose passionnante. Quand vous êtes un peu fatigué, ça peut arriver. Que votre irascible est un peu éteint. Il n'y a plus d'élan suffisamment. Lisez le traité des passions de saint Thomas. Ça devrait toujours être sur votre table. 5 minutes du traité des passions tous les jours. Ça vous réveillera. Parce que c'est un traité étonnant. Je me souviens, dans le dialogue que j'avais avec des psychanalystes à Paris, des psychanalystes freudiens, je leur ai dit un jour, je vais vous faire un traité des passions. Tel que Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, l'a fait. Alors, ils ont ouvert des yeux. Au Moyen-Âge, on parlait déjà des passions comme ça. Ils croyaient que c'était les modernes. Pas du tout. Il suffit de regarder hein, les gargouilles, les sculptures du Moyen-Âge, pour s'apercevoir qu'il y avait... suffisamment forte et qu'on projetait sur le démon tout notre irascible de façon étonnante. C'est intéressant de voir ça, du reste, de comprendre que le traité des passions a pénétré en philosophie par l'épicurisme et les stoïciens, positivement et négativement. Et que saint Thomas a traité des passions en théologie chrétienne pour pouvoir aller jusqu'au bout de la sainte humanité du Christ. Et pour comprendre combien le Christ dans son humanité était proche de nous. Et c'est vrai, il y a des gestes, des attitudes du Christ, des paroles du Christ qui montrent bien combien les passions sont présentes. Ça, quand le Christ prend le fouet pour chasser les vendeurs du temple, il y a une colère sainte. Mais la colère sainte ne supprime pas la colère passionnelle. Elle la transforme. Elle lui donne un éclat plus grand. Les saints sont plus passionnés que les plus passionnés des hommes. Ils sont passionnés divinement. Tout entier orienté vers l'amour. La passion fait partie de notre humanité. Supprimer la passion, c'est mutiler l'homme. C'est par la passion qu'on est en contact. Un orateur a besoin de la passion pour être en contact avec son public, pour l'éveiller. Et donc, si on est témoin du Christ, on doit être passionné. Autrement, on ne peut pas. Les Russes diraient, vous êtes fous. Et la folie, être fou de Dieu, c'est être passionné de Dieu. Et d'aller jusqu'au passionnel lié à l'amour spirituel. Donc, comprenons bien comment, en philosophie du vivant, après avoir compris ce que représente la connaissance sensible, nous regardons le point de vue de l'appétit. La connaissance permet de structurer. L'appétit permet de montrer tout le dynamisme, toute l'orientation dynamique, finalisée ou non finalisée. Parce que quand on regarde au plan philosophique le domaine des passions, on voit que les passions ne sont pas finalisées. C'est le domaine de l'anarchie. Et c'est du reste, sous ce point de vue-là, extrêmement intéressant à voir. C'est un domaine très anarchique, le domaine des passions. Ce qui n'empêche pas que dans le domaine des passions, il y a un ordre. Et c'est pour ça qu'on peut l'étudier philosophiquement. Si les passions étaient purement anarchiques, on ne pourrait pas les étudier philosophiquement. Mais les passions sont anarchiques, livrées à elles-mêmes. Livrée à elle-même. Il y a des jours où vous êtes passionné et vous laissez la passion libre cours. Et vous êtes un peu anarchique à ce moment-là. Tout vous exaspère. L'horaire, c'est insupportable. Devoir manger tous les jours à la même heure, il n'y a rien de plus bête. Au point de vue passionnel, on mange quand on a faim, quoi. Pourquoi vous attendez que la cloche sonne pour avoir faim? C'est complètement stupide, quoi. C'est tout à fait extrinsèque aux passions. Et c'est vrai, c'est extrinsèque aux passions. Donc il n'y a rien de tel pour arrêter le désir de manger. C'est pour ça que les moines sont maigres. Parce qu'ils ne mangent pas selon le rythme de leur instinct, de leur passion. Alors, il faut essayer d'entrer dans ce domaine difficile à analyser, mais extrêmement intéressant. Le domaine, donc, de ce que représente l'affectivité sensible. Alors, je vous disais la dernière fois qu'il fallait bien distinguer l'appétit naturel. Aujourd'hui, on le désigne sous le nom de l'instinct. Et j'essayais de préciser avec vous la différence de la signification de l'appétit naturel tel qu'on le trouve dans Aristote, dans saint Thomas, et l'instinct tel comme on le trouve chez les psychologues d'aujourd'hui. Et je vous avais posé la question, et je continue de poser la question, à quel moment les philosophes et les psychologues ont parlé de l'instinct laissant tomber l'appétit naturel. Vous voyez, c'est intéressant à voir, ça. C'est intéressant parce que c'est un tournant dans la pensée. L'appétit naturel implique le point de vue de la finalité. Ouais, finalité, c'est-à-dire un ordre naturel vers un bien sensible. Et cet ordre naturel vers le bien sensible, parce que c'est un bien sensible, il est relatif. Et donc, il n'implique pas un ordre qui s'impose. Et c'est pour ça que ça reste un domaine anarchique. L'instinct regarde le conditionnement qui s'impose à nous d'une façon déterminée. On ne peut pas aller contre l'instinct. Si on va contre l'instinct, il y a un refoulement. Alors, c'est ça qui sera intéressant à étudier, de savoir toute la question du refoulement, telle que la psychologie moderne montre, et telle que Freud le montre, avec le point de vue de l'appétit naturel. Qu'est-ce que ça représente exactement? On peut étudier ce que c'est que le refoulement, ce que c'est que l'inconscient à partir du refoulement, dans le point de vue psychologique freudien. C'est intéressant, il faut le faire aujourd'hui. On doit le faire. Mais on doit bien comprendre présente cette connaissance au niveau psychologique et la connaissance philosophique. Et c'est à l'égard des passions, de l'instinct et de l'appétit naturel qu'on peut saisir le mieux la distinction entre la connaissance psychologique. Alors, la connaissance psychologique en elle-même est bonne, mais quand on la coupe de la connaissance philosophique, on risque toujours d'oublier la finalité. Et c'est dans ce sens-là que je vous disais, le démon est le premier des psychologues. Parce que le démon n'a pas de philosophie. Il a perdu la finalité. Donc il ne regarde que le conditionnement. Ça, je dis ça au point de vue chrétien, pas au plan philosophique. Au point de vue philosophique, je ne peux pas le dire, c'est évident. Mais en théologie, je peux le dire. C'est pour ça que les tentations regardent toujours notre conditionnement. Et c'est pour ça que la théologie des tentations nous fait comprendre une théologie de la psychologie humaine. C'est l'importance des tentations telles qu'elles sont décrites dans l'Écriture. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait une théologie des tentations. Du moins, je ne crois pas. C'est ce que j'essaie de faire à Raymond. La théologie des tentations. C'est extrêmement intéressant. Parce qu'on voit tout de suite le point de vue psychologique. On est tenté quant à notre psychologie. On n'est pas tenté par rapport à notre finalité. Toutes les tentations, toutes les séductions sont toujours à ce niveau de notre comportement, de notre conditionnement humain. Donc, la connaissance psychologique, la science psychologique, les sciences humaines psychologiques regardent le conditionnement humain et essaient de déterminer des lois dans ce conditionnement humain, autant qu'on le peut. Ce sont des lois, ce ne sont pas des principes. Alors, il faut bien distinguer les deux. Le philosophe cherche les principes et les causes. Le psychologue cherche les lois. Donc, les liens, les relations, d'antécédents et de conséquents, puisque c'est ça la loi. C'est un lien de nécessité dans l'ordre du conditionnement. Tandis que le philosophe analyse en jugeant les différentes aspects de la même réalité à travers les différentes interrogations et les différentes inductions. Eh bien, c'est à l'égard de ce traité des passions qu'on va le mieux comprendre l'affrontement constant aujourd'hui entre l'aspect philosophique des passions et l'étude psychologique de notre psychisme passionnel. À ce point de vue-là, c'est très important et très intéressant. Alors, nous sommes en philosophie. Je ne vais pas faire la psychologie des passions. Ce serait très intéressant. Mais je ne la fais pas. Je ne peux pas tout faire. Je fais la philosophie des passions. Et c'est la philosophie des passions qui m'intéresse ici. Comment pouvons-nous analyser les passions? Nous avons l'expérience interne, chacun d'entre nous, des passions. Si parmi vous, il y en a un qui n'a aucune expérience interne de ses passions, je dirais que c'est un pauvre type. C'est lamentable. Il manque quelque chose. Aristote dit que l'insensibilité, c'est pire que tous les vices. Je comprends très bien. Donc c'est pas sentir qu'il y a en nous quand même un bouillonnement volcanique qui ne demande qu'une seule chose, c'est de bondir, de saisir la chose. On a des yeux partout au niveau passionnel. C'est extraordinaire quand la passion est éveillée. Donc nous avons l'expérience de certaines colères. J'espère bien qu'il y a des gens, on peut leur marcher sur les pieds, se mettre en colère. que c'est que la colère. Et puis, on sait très bien ce que c'est que l'amour du chocolat. Ou l'amour du vin. Si on est grec, si on est suisse, c'est l'amour du chocolat. Si on est grec, c'est l'amour du vin. Le bon vin. On aime le bon vin. Comme dit Aristote, non pas parce qu'il est bon, mais parce que ça nous plaît. Et c'est vrai, c'est pour ça, comme on aime le bon chocolat. Ou la mousse au chocolat, pour les gourmets. On sait ce que c'est que la passion. Il y a des êtres qui nous attirent. Il y a des êtres, au contraire, antipathiques. On ne sait pas pourquoi. On connaît ce domaine-là. Alors, très vite, on voit que le domaine passionnel est très multiple. Des passions de désir, d'élan, des passions de fuite, des passions de jouissance, de repos, des passions de tristesse. Pourquoi suis-je ce matin levé avec une tristesse terrible, un brouillard autour de mon âme? Et l'oraison a eu beaucoup de peine de me montrer que le soleil est élevé. Je suis resté un peu dans cette espèce de brouillard. D'autres jours, vous vous réveillez. Oh, c'est magnifique. La joie extraordinaire. Des états passionnels. Chez certains êtres, à peu près toujours la même chose. Chez d'autres, au contraire, c'est moins dans le si. On comprend ça. Si vous étudiez, vous pouvez faire toute la description des passions au point de vue rhétorique. Je ne la fais pas. C'est facile à faire. Et alors là, c'est très intéressant de regarder les études de Sénèque. Le Dehiroth Sénèque. On devrait toujours commencer le traité des passions par le traité de Dehiroth Sénèque. C'est à lire. Non pas au réfectoire, après Peggy, mais le Dehiroth. Alors à la place des Français, ce seraient les Grecs. Vous voyez, parce que c'est toujours comme ça. Il y a toujours le Grec et les barbares, le Juif et les goïmes, le Français et les imbéciles. Et c'est tout ça comme ça, vous voyez. C'est dialectique, ça, vous voyez. Ça fait partie d'une note spéciale. Dans chaque pays, c'est comme ça. Donc, transposer. Quand vous entendez transposer, vous n'avez qu'à le faire. Et dès que vous transposez, vous dites, c'est très vrai. C'est très intelligent, ça. Il a compris. On transpose. Et ça, c'est une description passionnelle. On comprend très bien. C'est très passionnel, Peggy. Une très belle passion. Mais c'est passionnel. C'est pour ça que ça nous... Ça nous plaît, du reste, parce que c'est passionnel. Et c'est bon d'entendre ça de temps en temps. Alors, à la suite de Peggy, on aurait le Dehiroth Sénèque. Ne le faites pas aussi. Hein. Le Dehiroth Sénèque. Le livre sur la colère. C'est extraordinaire. Surtout quand vous lisez en latin. Parce que Sénèque écrit très bien le latin. Avec une force étonnante. Et le Dehiroth. Alors, il montre comment, quand on est en colère, on est comme un animal. On a tous dans la tête et dans le cœur et dans la mémoire certaines colères de pions. Surtout dans les boîtes qui étaient très serrées. La colère des pions, c'est du reste la plus grande joie des étudiants et des collégiens, c'est de mettre en colère leurs pions et de mettre en colère le préfet de discipline. Alors c'est le maximum. Les colères. Dans la colère, on est en présence de quelqu'un qui a perdu la tête. Il s'est plus où aller. Il s'est plus où aller. Et le Dehiroth Sénèque montre bien ce que c'est qu'une passion à l'extrême. Bon, il faut donc décrire les passions. C'est facile, toutes les passions. Et si on avait le temps, je vous dirais, bien chacun d'entre vous, essayez de compter, de saisir tous les états passionnels qui peuvent. cette étude-là, au point de vue philosophique, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes tendances affectives qu'on a dénommées le concupiscible et l'irascible. Vous voyez, ceci, c'est le fruit d'une induction. On est parti de la diversité des passions, très multiples. Pour être les extrêmes, hein, l'amour passionnel et la haine noire, la jouissance et la tristesse, le désir et la fuite, la crainte. On a une peur bleue de tout. Il y a des êtres qui naissent dans la crainte et qui ont une peine énorme d'arriver à dépasser la crainte. Et puis l'espérance, l'espérance passionnelle, pas l'espérance divine. Quand on étudie toute cette diversité, on voit qu'en effet qu'il y a deux grandes tendances en nous. Le concupiscible qui nous fait tendre vers le bien sensible. Et l'irascible qui nous fait tendre vers le bien difficile. Il y a certaines psychologies qui ne sont à l'aise que dans la lutte. Et quand il n'y a pas de lutte, il la crée pour être à l'aise. Il y a des êtres qui divisent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un irascible qui aime le combat. Alors quand c'est paisible, vous savez, la mer d'huile, comme c'est ennuyeux. Une mer d'huile, oh ! Une Méditerranée bien calme pour un Breton, c'est effrayant. C'est vrai, c'est une mer d'huile. Et puis il y a des gens, alors, quand on dit, ah oui, comme c'est calme, comme c'est... Je me souviens de votre, dans une de mes retraites, faite à des religieuses, à supérieur, m'a dit, mon père, vous verrez, comme tout est paisible ici, tout est paisible. Puis chante, je commence à retraite, c'était le climat d'une serre surchauffée. Ah, vous êtes tous entrés dans une serre surchauffée, comme c'est paisible, parce qu'il n'y a plus de vie. C'est surchauffé. On essaie de respirer, c'est à peine si on y arrive. Une serre surchauffée. Alors, quand on est en face d'un climat comme ça, on n'a qu'un seul envie, c'est de faire éclater un pétard. Parce qu'on a envie de reprendre et se remettre à l'aise, alors, parce que c'est quand même, il n'y a pas de vie. Et c'est vrai, ça, c'est le. Vous voyez, l'irascible, les concupiscibles, ils ont tout le temps à cheminer l'un en face de l'autre. Un concupiscible pur, alors, calme plat. Le ronronnement du chat. L'irascible, alors, lui, veut diviser. Il divise pour régner, pour dominer. Donc, on sent bien en nous ces deux grandes tendances. Le concupiscible, qui est en nous cette affectivité sensible à l'égard du bien sensible. C'est l'apparition en nous de l'amour. L'amour passionnel. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ce bien sensible. C'est irrationnel. Pourquoi vous aimez le chocolat ? Du moins certains. Et d'autres, pas du tout. Le chocolat, le vin, l'alcool, un bon vin. J'aime ça. Pourquoi ? C'est code naturel à vous. C'est code naturel à votre être, à votre sensibilité. Et pourquoi vous aimez ces philosophique, ces deux grands aspects de notre affectivité sensible, ce qu'on va appeler le concupiscible et ce qu'on va appeler l'irascible. Et vous le retrouvez dans toutes les philosophies, ça. Et vous le retrouvez dans la psychologie moderne. Et vous savez bien qu'il y a un lien très fort entre les deux. Quand l'animal a son bien, le chien qui a un os dans la gueule et qui le mord, il n'aboie plus. Si vous lui retirez l'os de sa gueule, il va commencer à aboyer. Voyez, la frustration du bien sensible excite l'irascible. Ça, c'est bien évident. Quand un homme a bien travaillé toute la matinée et qu'il retrouve au foyer et que rien n'est préparé au point de vue de la table, il se met en colère. Si au contraire, son épouse est suffisamment astucieuse pour lui mettre avec l'odeur du bon repas,
somme théologique de saint Thomas implique trois parties. Il y a la prima pars,
question du sur les passions. Question 22. Et suivant. Nous allons prendre, nous, tout de suite, la question 26. Et la question 26, c'est sur l'amour. C'est très étonnant, vous voyez, de voir que c'est à l'égard des passions et de la passion amour que saint Thomas va étudier théologiquement ce que c'est que l'amour. Vous voyez, nous, qui ne sommes pas assez réalistes, on dirait on va tout de suite étudier l'agapé. rappelons-nous, parce que ça c'est intéressant de bien saisir, c'est que de fait, alors là au plan philosophique, toute la diversité des passions, du concupiscible comme de l'irascible, implique l'amour. L'amour est présent dans toutes les modalités du concupiscible. L'amour est présent dans toutes les modalités de l'irascible. Et donc, l'amour, c'est la passion fondamentale. On pourrait dire, vous voyez, et c'est ce qu'on essaiera de comprendre, parce que je voudrais que vous arriviez à le comprendre, ça. On pourrait dire que si je regarde le concupiscible et l'irascible, je vois qu'il y a de fait six modalités dans le concupiscible et cinq dans l'irascible. Les modalités du concupiscible, c'est amour, désir, joie, jouissance. Et l'inverse, c'est haine. Du bien. Le contraire du bien, c'est le mal. La haine, la fuite et la tristesse. Vous avez donc six passions du concupiscible. Et vous avez cinq passions, cinq modalités de la passion dans l'irascible. L'irascible, c'est le bien difficile. Alors, le bien difficile met en moi, excite en moi l'audace. Quand vous êtes en face d'une ascension difficile en montagne, allez, l'audace. Et puis tous les poltrons, ils sont par derrière. Alors l'audace, le bien difficile, excite en moi l'audace. L'audace, l'espérance. Et puis l'inverse, en face d'un mal imminent, difficile à vaincre, alors c'est la crainte. J'ai une frousse intense, juste l'inverse de l'audace, puis le désespoir, puis la colère. Vous en avez cinq, ce qui fait qu'il y a 11 modalités passionnelles, et toutes ces modalités sont commandées par l'amour. Les deux extrêmes, c'est l'amour. Ça, je peux le comprendre descriptivement. C'est l'amour et la colère. Voilà, deux extrêmes. Et il y a un lien entre l'amour et la colère. Pour désamorcer une colère, il suffit de plus aimer. Celui qui est tout le temps en colère, c'est parce qu'il aime beaucoup et qu'il est toujours frustré. Ça, c'est évident, on voit ça tout de suite. Celui qui ne se met jamais en colère, mais c'est qu'il n'a jamais aimé. Alors, il ne se met pas en colère, il n'y a pas de raison. Vous mettez en colère quand vous aimez. Ça, c'est bien évident. Alors, il faut comprendre ces deux extrêmes et comprendre que, de fait, ces 11 modalités passionnelles, ces 11 modalités passionnelles me donnent 10 visages de l'amour. Oui, les prédicaments de l'amour. Les 10 visages de l'amour. L'amour apparaît dans le désir. L'amour apparaît dans la jouissance. L'amour apparaît dans la haine. L'amour apparaît dans la fuite. L'amour apparaît dans la tristesse. L'amour apparaît dans l'audace. L'amour apparaît dans l'espérance. L'amour apparaît dans la crainte. L'amour apparaît dans le désespoir. L'amour apparaît dans la colère. 10 visages d'amour au niveau passionnel. Vous voyez, ça c'est justement pour ça que c'est tellement important d'étudier qu'est-ce que c'est que l'amour.